Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le président Václav Klaus demande un plan du fonctionnement du gouvernement avant d'accepter le remaniement du gouvernement. Le ministre de la Défense, Alexandre Vandra, est prêt à quitter son poste. 5 toiles de l'épopée slave d'Alfons Mucha sont exposées au palais Veletrejny à Prague. Le ministre de la Défense, Alexandre Vandra, du Parti civique démocrate ODS, a proposé au premier ministre Petr Nečas sa démission. Il l'a annoncé ce lundi après-midi lors d'une conférence de presse à Prague. Le ministre Vandra a déclaré qu'il ne voulait pas empêcher les changements au sein du gouvernement et qu'il souhaitait permettre un bon fonctionnement de la coalition gouvernementale tripartite. Alexandre Vandra est soupçonné d'être impliqué dans une affaire concernant un contrat public controversé passé avec la société Promopro lorsqu'il était encore ministre chargé des affaires européennes pendant la présidence tchèque de l'Union européenne. Les démissions du ministre de la Défense ainsi que du ministre des Finances Miroslav Kalousek et du ministre de l'Agriculture Ivan Fuchsa ont été réclamées par le parti Affaires publiques, membre de la coalition gouvernementale. Rappelons qu'un scandale de corruption au sein de ce parti révélé la semaine dernière est à l'origine de la situation tendue sur la scène politique tchèque. Toujours ce lundi, le Premier ministre Petr Nečas a remis au président Václav Klaus la démission du ministre des Transports Vidbarta du Parti Affaires publiques ainsi qu'une proposition de révocation de 2 autres ministres du Parti Affaires publiques, à savoir du ministre de l'Intérieur Radek Yon et du ministre de l'Éducation nationale Joseph Dopech, supposés d'être liés à la société de surveillance ABL fondée par Vidbarta. Le président Klaus demande de la part du Premier ministre un plan du futur fonctionnement du gouvernement. Je demande un plan, un projet, les objectifs du gouvernement avant d'accepter une ou plusieurs démissions ou avant de révoquer tel ou tel ministre, a déclaré Václav Klaus. Les leaders de 3 partis de la coalition gouvernementale, de l'ODS, du parti Top 09 et des Affaires publiques, se rencontrent ce lundi soir. Avant cette réunion, le Premier ministre a obtenu le soutien des députés du parti Top 09. 5 toiles d'Alfons Mucha faisant partie du cycle L'épopée slave seront exposées dès mardi au palais Veletrejny à Prague. Ces toiles viennent d'être restaurées par les spécialistes de la galerie de la ville de Prague. Les 15 autres tableaux du cycle seront exposés à partir du 1er mai prochain au château de Moravský Krumlov en Moravie du Sud. La capitale tchèque souhaite récupérer les 15 toiles restantes en septembre prochain. Les municipalités de Moravský Krumlov et de Prague se disputent depuis plusieurs mois le droit de disposer de ce cycle de tableaux que leur auteur Alfons Mucha a légué à la capitale tchèque. Les ministres européens de l'Intérieur se sont réunis à Luxembourg pour discuter de l'immigration et de la situation en Méditerranée. Ils ont sévèrement critiqué l'Italie qui a décidé d'accorder des permis de séjour temporaires à des milliers de Tunisiens, ce qui leur permettrait de se rendre dans les autres pays européens. La République tchèque fait partie des pays qui désapprouvent cette démarche des autorités italiennes, a déclaré l'ambassadeur tchèque auprès de l'Union européenne, Milena Vecenova. En ajoutant que cette décision de l'Italie donne aux immigrés tunisiens la possibilité de circuler librement dans l'espace Schengen, d'autres immigrés vont suivre leur exemple et cela pose un véritable problème, a-t-elle déclaré. Côté météo, mardi, jour de fête des Julius, le temps en République tchèque sera nuageux avec de la pluie dans la partie ouest du pays. Les températures seront en baisse entre 11 et 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. Tout de suite, fais événement en République tchèque avec Alexis Rosenzweig.
Fais événement en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague et bien entendu nous parlerons dans cette émission de la crise politique dont vous parlez Magda Hrozinková dans les infos, une crise qui devrait durer encore un certain temps à Prague, un retour ensuite sur les exploits du pilote tchèque František Peřina dont le pays a célébré récemment les 100 ans depuis sa naissance, ce sera dans un instant avec Anna Kubišta et puis comme tous les débuts de semaine on parlera de sport avec Guillaume Narguet, notre spécialiste qui a couru le semi-marathon de Prague. Pas de doute possible, une crise gouvernementale est en cours en République tchèque. Les conséquences ne peuvent encore être évaluées, mais l'implosion du parti Affaires publiques, VV, un des trois partis de la coalition gouvernementale, va changer profondément la configuration politique en place depuis les dernières élections législatives, tenues il y a moins d'un an, pour remédier à une précédente crise gouvernementale. Après les révélations publiées dans la presse tchèque et déjà évoquées par Radio Prague sur le fonctionnement interne de VV, les problèmes du parti ont engendré une crise gouvernementale et les représentants politiques s'emploient en ce début de semaine à trouver des solutions. Et comme d'habitude, en temps de crise, tous les regards se tournent vers le château de Prague. Selon la Constitution, le chef de l'État nomme et renvoie les ministres sur proposition du chef du gouvernement. Mais le président Václav Klaus refuse pour l'instant d'accepter les démissions des ministres du parti VV et attend que le premier ministre Peter Nečas propose un plan de sortie de crise. On écoute le chef de l'État.
Je ne souhaite pas que se renouvelle l'expérience d'une longue absence de gouvernement comme en 2006 ou l'absence d'un gouvernement politique comme en 2009-2010. Avant d'accepter les démissions ou de démettre des ministres de leurs fonctions, je veux que me soit présenté un plan selon lequel le gouvernement de la République tchèque va fonctionner.
En échange du départ de ses ministres, la formation VV a exigé la démission des ministres ODS de la Défense et de l'Agriculture, ainsi que du ministre Top 09 des Finances. Le ministre de la Défense a annoncé ce lundi après-midi qu'il pourrait donner sa démission. La semaine s'annonce donc agitée sur le plan politique à Prague. Plusieurs scénarios sont envisagés et relayés par les médias nationaux. Sans le parti VV, il manque à la coalition formée par l'ODS et Top 09 7 voix pour avoir la majorité à la Chambre des députés. 7 députés qui pourraient donc se trouver dans les rangs de ce nouveau parti en déliquescence. Une solution qui serait cependant difficile à faire accepter. L'expérience ratée du gouvernement Topolanek reposant sur les voix de transfuges ayant laissé de mauvais souvenirs. L'ODS, Top 09 et VV, au moment de la formation du gouvernement, ont signé un accord de coalition détaillé qui devait servir de cadre au fonctionnement du pouvoir exécutif. Les représentants de ces trois partis devraient se rencontrer dans les prochaines heures pour décider de l'avenir de cet accord. Et pour le principal parti de l'opposition, le CSSD, il faut déjà envisager des élections anticipées. Michal Hašek est le vice-président du CSSD.
Personne ne sait qui gouverne aujourd'hui la République tchèque et ce qui va se passer demain. Dans une telle situation, le mieux serait que M. Nečas reconnaisse que son projet s'est effondré et qu'il démissionne de son poste de Premier ministre. Et la solution la plus propre, à notre avis, serait l'organisation d'élections anticipées.
Le gouvernement de Peter Nečas s'était engagé à entreprendre les réformes dont le pays a besoin, à commencer par celle des retraites. Pour les économistes, ce gouvernement qui s'appuyait sur une majorité confortable est en train de rater une opportunité unique de les faire passer. Mais comme l'écrit Éric Tabéry dans Respect, peut-être qu'avant ces réformes économiques, c'est de réformes du système politique dont le pays aurait d'abord besoin, notamment en matière de financement des partis et d'appel d'offres publiques. Après la politique, on parle un peu d'histoire maintenant, avec ce vendredi le général et ancien pilote de la RAF, František Peržina, qui aurait eu 100 ans. Retour sur la vie d'une des grandes figures de l'histoire tchèque de la Seconde Guerre mondiale, c'est tout de suite avec Anna Kubišta.
Surnommé le général du ciel, le pilote de chasse František Peržina a inscrit son nom dans l'histoire de l'aviation militaire et dans celle de la résistance au nazisme dès les premières heures de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que relevait d'ailleurs l'historien Jiří Rajlich en 2006 lors du décès de František Peržina à l'âge de 95 ans.
On byl legendou vlastně už za svého života.
Il était une légende déjà de son vivant. František Peržina s'est rendu célèbre dès 1937, où il s'est fait remarquer à l'occasion de la compétition internationale d'aviation qui se déroulait à Zurich. Mais il est véritablement entré dans l'histoire lors d'une bataille de l'air au-dessus de la France en 1940.
Opravdu vstoupil do dějin v roce 1940, kdy se stal jedním z nejúspěšnějších pilotů bitvy o Francii.
Car en effet, après la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1939, František Peřina quitte le pays pour la France et rejoint la Légion étrangère. Mais dès que la France déclare la guerre à l'Allemagne, il rejoint, conformément à son souhait d'origine, l'armée de l'air française. À bord de son avion Curtiss, il abat une dizaine d'avions de la Luftwaffe en 3 semaines à peine et devient célèbre par ce fait d'armes. Mais en juin 1940, son avion est touché par un Messerschmitt. Même blessé, il parvient à se poser et après avoir été soigné, il parvient à rejoindre les forces françaises libres à Oran, en Algérie. Plus tard, il rejoindra l'Angleterre et la RAF, où il se distinguera par d'autres exploits aériens. Comme le rappelait Jiří Rajlich, le lien de František Peřina à l'aviation était de ceux qu'on qualifie de vocation.
Il a eu envie de voler très très jeune. Il était originaire de Moravie, où se trouvaient plusieurs bases aériennes. Il y avait toujours un avion dans les airs. La première fois qu'il a vu un avion, il avait 8 ans. C'est un hasard, mais le pilote de l'avion s'appelait Peřina. Il s'est dit, si lui vole, pourquoi pas moi? Il a poursuivi son objectif contre la volonté de ses parents, d'ailleurs au début. C'était quelqu'un de très talentueux. Pour preuve, après avoir fait son école, il a été choisi pour être pilote de chasse, ce qui veut dire qu'il devait être parmi les 10 meilleurs de sa promotion.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, František Peřina retourne en Tchécoslovaquie où il retrouve sa femme, Anna, emprisonnée pendant les 3 dernières années du conflit. Mais l'atmosphère est lourde dans cette Tchécoslovaquie d'après-guerre où très vite, après le putsch communiste de 1948, les anciens pilotes de la RAF, les résistants tchèques qui ont servi les alliés, se retrouvent persona non grata aux yeux du nouveau régime. Certains sont exécutés, comme le général Eliodor Pika, d'autres auront plus de chance et parviendront à fuir, comme František Peřina et sa femme. František Peřina travaillera à nouveau pour la RAF pendant quelques années avant de partir pour le Canada, puis les États-Unis. En 1993, František Peřina et son épouse sont revenus en République tchèque. Accueilli en héros, il dira alors qu'il ne voulait qu'une chose, mourir dans son pays natal. Décoré à de nombreuses reprises, le général du ciel est décédé à Prague en mai 2006, à l'âge de 95 ans, quelques semaines seulement après son épouse.
Après ce portrait historique, on passe à la deuxième partie de cette émission avec du sport, comme tous les débuts de semaine, et avec Guillaume Narguet qui nous parle du succès des courses de fond dans la capitale tchèque.
Sport en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive. Record de participants, record du parcours tant chez les hommes que chez les femmes, un vainqueur pour la première fois sous la limite de l'heure, un temps chaud et ensoleillé et un nombre public dans les rues du centre-ville. Pour sa 13e édition, samedi 2 avril dernier, le semi-marathon de Prague a une nouvelle fois été un grand succès populaire et sportif. C'est désormais une évidence. Le semi-marathon, comme le marathon de Prague, font bel et bien partie des plus belles courses urbaines organisées en Europe et dans le monde. Les temps réalisés par les vainqueurs des dernières éditions démontrent que le semi-marathon et le marathon sont également devenus des courses d'élite. Cette année, avec un temps de 59 minutes et 30 secondes, le vainqueur kényan du semi-marathon, Philemon Lemo, a ainsi signé la 3e meilleure performance mondiale de la saison. L'année dernière, un autre coureur kényan, Eliud Kiptanui, avait quant à lui bouclé les 42 km du marathon en 2h05 minutes et 39 secondes, améliorant ainsi de plus de 2 minutes le précédent record du parcours à Prague. Mais surtout, il avait réalisé la 17e meilleure performance mondiale de tous les temps. Aujourd'hui, les organisateurs des courses à pied dans la capitale tchèque sont donc récompensés de leur travail, entamé dans les années 1990. Du coup, récompense de ce travail, le semi-marathon de Prague se range dans la catégorie des épreuves recherchées par les tout meilleurs coureurs mondiaux, comme le confirme Jana Moberlai, chargée de la participation des athlètes d'élite.
Les toutes premières années, nous étions contents de la présence de n'importe quel coureur étranger de bon niveau. Mais notamment ces deux dernières années, nous enregistrons un intérêt grandissant des athlètes d'élite pour nos courses. Nous avons désormais nettement plus de demandes et nous ne pouvons pas toutes les satisfaire. Nous sommes contraints de dire non à certains coureurs. Aujourd'hui, je dispose du luxe de pouvoir négocier avec leur manager plusieurs mois à l'avance et je peux choisir les athlètes dont les profils conviennent le mieux à nos courses à Prague.
Depuis l'année dernière, le semi-marathon de Prague présente en outre l'avantage de posséder un label d'or, une marque de qualité décernée par la Fédération internationale d'athlétisme. Cette année, pour la première fois, le marathon pourra également se targuer de ce label d'or, une distinction dont seuls les plus grands marathons au monde, type New York, Londres, Berlin ou Paris, peuvent se prévaloir. L'année dernière, quelques jours avant la tenue du semi-marathon, Anne Scheuner-Decloux, alors chargée du marketing et de la communication au sein de la société PIM, organisatrice des courses à Prague, nous avait expliqué les avantages et les contraintes de cette labellisation.
Ah, pour nous, c'est un énorme honneur. C'est surtout une reconnaissance au niveau international, principalement au niveau des coureurs élites, c'est clair. Beaucoup d'élites veulent courir dans des courses qui ont reçu un label. Et le label d'or est la plus haute distinction. Donc ça, c'est une garantie de qualité. C'est une garantie aussi pour eux d'un prize money, d'une dotation de course plus haute. Pour nous, ça induit bien sûr beaucoup plus de travail, pas dans le service qu'on apporte directement, parce que ça, je pense qu'on essaierait de l'améliorer malgré tout. Mais c'est surtout tout ce qui est les contrôles. Alors, déjà, le nombre de coureurs élites qui doivent participer, qui ont un certain temps à respecter. On doit aussi apporter une certaine dotation. Et ce qui est très important pour nous, c'est la transmission télévisée, pas nécessairement en direct, mais en minimum 50 pays différents. Donc pour nous, c'est un énorme investissement de trouver cette retransmission dans 5 pays différents. On travaille avec beaucoup de journalistes étrangers pour nous aider.
La renommée, la bonne organisation et la réputation de sérieux concourent donc à attirer en République tchèque les meilleurs athlètes d'Afrique de l'Est, comme s'en réjouit Jana Moberly.
Il existe une quantité incroyable de coureurs kényans essentiellement, mais aussi éthiopiens. Comme toutes les sociétés dans le monde, les sociétés organisatrices de courses à pied sont confrontées à des problèmes financiers. Mais Prague a l'avantage de se ranger parmi les courses dont on sait que les responsables respectent leurs paroles et paient les primes promises. Les managers des athlètes en sont bien conscients et cela me permet de faire mes calculs à l'avance. Le prix des coureurs kényans et éthiopiens n'est en effet pas aussi élevé que celui des coureurs européens de même qualité qui sont beaucoup plus rares et donc plus difficiles à attirer. Les athlètes européens le savent et c'est ce qui leur permet, à la différence des Africains, de dicter leurs conditions financières aux organisateurs des courses.
Comme ces deux dernières années, les temps records réalisés par les vainqueurs kényans chez les hommes et chez les femmes lors de l'édition 2011 ont une nouvelle fois tordu le cou à l'idée selon laquelle les parcours du semi-marathon et du marathon de Prague ne seraient pas propices à la réalisation de chronos mondiaux de premier ordre. Les rues pavées et étroites ou encore les rails des voies de tramway désavantageraient les coureurs. Jana Moberly le sait bien et pourtant.
C'est vrai, mais les trois dernières éditions ont démontré que notre parcours n'est pas lent, loin de là, et qu'il est possible de réaliser à Prague d'excellents temps, des temps que les mêmes coureurs ne parviennent pas à atteindre sur d'autres semi-marathons ou marathons dans le monde qui ont la réputation d'être plus rapides. Le parcours de Prague est donc très rapide. Ce n'est certes pas le plus rapide, car sa spécificité est de passer dans certaines petites rues du centre historique de Prague. Le parcours propose de superbes vues de la ville. Bien entendu, cela est plus intéressant pour les amateurs que pour les coureurs d'élite, mais c'est ce qui fait le charme des courses à Prague et nous ne voulons pas que cela change.
Et le charme de Prague ne fonctionne pas uniquement sur les participants étrangers en provenance de plus de 80 pays. Les Tchèques sont également de plus en plus nombreux à s'aligner au départ du semi-marathon et du marathon. Cette année, la limite maximale des 9500 inscriptions fixée par les organisateurs a ainsi été atteinte près de 3 semaines avant la course, un cas de figure qui ne s'était jamais produit dans le passé où des dossards restaient toujours disponibles les derniers jours précédant le départ. mais en 2010 déjà, avec 8500 coureurs, le nombre de participants au semi-marathon avait progressé de plus de 30% par rapport à 2009. Un bond dans les chiffres qui, encore une fois, n'était pas le fruit du hasard, selon Anne Scheuner-Declou.
Je pense que c'est un travail à long terme, surtout en République tchèque. On a surtout une grande augmentation des coureurs tchèques. C'est un travail à long terme avec les enfants, les adolescents dans les écoles à convaincre les Tchèques de courir et de participer à des courses. Je pense que c'est surtout là un effort qui a été fait depuis 5 ans maintenant aussi avec le junior marathon de convaincre les gens à courir et essayer à participer à des courses.
Et à n'en pas douter, le prochain marathon de Prague, qui se tiendra le 8 mai, devrait confirmer cette tendance en s'approchant lui aussi de la barre des 10 000 participants, limite sans doute maximale pour une ville comme la capitale tchèque.
Merci à Guillaume Narguet, qu'on félicite au passage pour son très bon temps réalisé lors de ce semi-marathon qu'il a disputé la semaine dernière à Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Écrivez-nous à l'adresse français@radio.cz, français sans cédille @radio.cz.